Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
Et on va commencer avec un bon anniversaire, Claude
merci,
Lelouch.
Merci, ça me fait très très plaisir, ça me touche beaucoup, merci.
Et on a trouvé que c'était quand même une trouvaille, que ça soit le jour de votre anniversaire. Je voulais vous dire, je n'ai pas vu tous vos films, mais j'ai vu un très grand nombre d'entre eux. Je vous suis depuis très longtemps, j'ai rencontré Marie-Sophie, elle, lorsqu'elle est venue en Australie. Oui. Et j'ai suivi aussi les films. Et je crois qu'il y a eu un certain nombre de films qui m'ont énormément touché. Bon, Un homme et une femme a été incontestablement un moment, un tournant décisif avec la séquelle de 20 ans après. Il y a eu Les uns et les autres qui était la première grande fresque et puis La belle histoire. Mais il y a eu aussi Les misérables, il y a eu Tout ça pour ça. Et on reconnaît une sorte de style. Il y a quand même des continuités, il y a naturellement des trouvailles. Mais je crois que ce film, celui que vous présentez maintenant, Roman de gare, est probablement un des plus accomplis.
Oui, oui, en tous les cas, c'est un film que j'adore. Et vous savez, j'ai fait 41 films et je le dis, je crois que j'ai fait des brouillons. On a des jolis brouillons, de beaux brouillons. Et puis un jour, il faut mettre au propre. Voilà, donc le moment est venu pour moi maintenant de mettre au propre tout ce que j'ai appris. Donc j'espère que mes derniers films seront plus aboutis que les autres. Mais il a fallu faire les autres pour pouvoir faire cela, vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est un voyage très long, je pense qu'il faut une vie entière pour réussir un film, voilà. Donc je vais consacrer ma vie entière, ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, pour un jour réussir le film dont j'ai rêvé, voilà.
Ça me fait penser à la quête du Graal, oui, en quelque sorte, ou la quête de l'absolu, de la perfection.
Oui, on cherche tout ça, en tous les cas, moi c'est ce que je cherche, mais je sais qu'il m'aura fallu une vie entière pour trouver ce que je cherche d'abord, et puis j'ai consacré ma vie au cinéma, j'aime le cinéma par-dessus tout, et donc voilà, alors j'espère que les derniers films que je vais avoir la chance de faire...
Oh oui, on ne vous laisse pas partir. Vous savez, j'ai trouvé ce film absolument incroyable et je vais vous poser les questions naturellement. Je pensais que vous aviez votre vie dévouée au cinéma et vous avez aussi écrit un livre ces années-là, Claude Lelouch.
Qui est en train de sortir en ce moment-là, oui.
Donc nous allons aussi l'acquérir et on pourra peut-être avoir une autre interview à ce sujet.
D'accord.
Alors je vais vous dire comment j'ai compris ce film. D'abord les thèmes, la tendresse, la colère, le mystère, le suspense, l'humour, l'amour. Mais la traduction en anglais était plus proche de ce que du titre du film en français pour moi, dans ma compréhension. Quand il parle par exemple de « crossed tracks », moi je voyais « destin croisé ». D'ailleurs, ça a été le concept que j'ai tout de suite vu dans ce film.
Oui, tout à fait. Mais vous savez, tous mes films parlent de la même chose, c'est-à-dire de ces hasards et de ces coïncidences qui font qu'à un moment donné, nos vies sont ce qu'elles sont. Moi, je pense que ces hasards et ces coïncidences sont tout sauf des hasards et des coïncidences. C'est le résultat de mathématiques de très très haut niveau que nous ne sommes pas capables de calculer, mais le fait d'aller d'un rendez-vous à l'autre, les ricochets de la vie, c'est ce qui fait le charme de la vie. Moi, je ne sais pas qui a rempli mon agenda à ma naissance, vous voyez, mais je ne me suis pas ennuyé une seconde, car chaque rendez-vous, chaque personne m'a amené là où j'aurais jamais eu l'idée d'aller. Donc c'est ça, c'est comme ça que je construis mes films. Puis je ne cesse de répéter que mes échecs m'ont plus fait grandir que mes succès, quoi. Tout ce que j'ai réussi dans ma vie, je l'ai d'abord raté. Et donc, c'est ça que j'essaie de dire dans mes films. C'est ça que j'essaie d'expliquer. C'est que l'échec est la plus grande université du monde. Oui.
Claude Lelouch, je vais vous dire comment je l'ai compris, ce film. Et pour moi, je crois que c'est un des plus aboutis pour beaucoup de raisons. Parce qu'il y avait toutes ces émotions, d'une part. Mais c'est aussi un thriller. C'est aussi un film à suspense. C'est un film qui nous fait un peu trembler. Il y a cette phrase un peu énigmatique où on s'imagine que peut-être la voix off est en train de nous raconter une histoire d'un roman ou lorsqu'on a ouvert la première page, on ne peut pas le reposer jusqu'à la dernière page. C'est exactement l'effet que ça m'a fait, ce film. Et pourtant, c'était après une journée de travail sur un petit écran. Et puis alors, naturellement, j'ai eu du mal à dormir après parce que il y avait tout un tas de choses qui se promenaient dans ma tête. Tout le monde dit la vérité dans ce film au départ, mais elle paraît si absurde que personne n'y croit.
Bravo, c'est exactement ça. C'est-à-dire, c'est un film sur les apparences. C'est un film sur les apparences et on vit dans un monde où les apparences sont trop importantes. Je veux dire que la publicité, les médias, la façon de s'habiller, de se maquiller, je veux dire qu'on essaye de faire croire autre chose que ce que... Vous voyez, on essaye de vendre aux autres autre chose. Donc c'est à partir de ce concept que j'ai construit ce film. En plus, je raconte dans ce film un peu aussi comment je raconte des histoires, comment je m'inspire de la réalité. Moi, si je vois à 3h du matin une femme qui est plaquée sur une autoroute, ça m'intéresse, vous voyez, ça m'interpelle. Je reste là et je continue pas ma route, je l'observe. Donc, je me suis nourri toute ma vie de cette curiosité. Je suis avant tout quelqu'un de très curieux et le spectacle de la vie, c'est mon fonds de commerce. Hein. C'est là où je pioche toutes mes idées, mais... Je pense que c'est intéressant dans mes films, c'est que toutes les histoires que je raconte ont un fond de vérité. Vous voyez, je me suis toujours inspiré de ce grand scénariste qui est la vie. Quoi. Je veux dire que j'essaye de l'imiter. Vous voyez, j'essaye d'imiter le fonctionnement de cette vie qui va de surprise en surprise, qui se comporte comme une aventurière. Je veux dire, la simple observation de la vie est un spectacle dont je me lasse pas. Vous voyez, dont non seulement je m'en lasse pas, mais en vieillissant, je suis de plus en plus enthousiaste. Vous voyez ce que je veux dire, j'ai le sentiment de rajeunir. C'est fou, le spectacle de la vie me donne le sentiment d'être de plus en plus jeune et de plus en plus naïf. Voilà. Donc, Roman de Gare, c'est un film qui ressemble à la vie, telle que moi je la vois, telle que je l'appréhende. C'est-à-dire, on me raconte des histoires et puis j'essaie de trouver la vérité. Les gens disent des tas de choses. Ce qui est intéressant, c'est pas ce qu'ils disent, c'est ce qu'ils pensent. Vous voyez.
Et comment ils réagissent, les émotions qui sont à fleur de peau, avec des mots qui n'ont absolument aucun rapport avec ces émotions? Les mots, c'est le masque presque.
Oui.
Sauf la colère,
ça,
là, d'un des personnages.
Oui, et puis tout ça, c'est pour trouver l'autre, hein, finalement.
Oui, c'est pour trouver l'autre. Et vous avez parlé, vous savez, de cette mathématique extraordinaire, des coïncidences qui n'en sont pas. Et il y a une merveilleuse formule, d'ailleurs en anglais comme en français. Les coïncidences sont la signature de Dieu qui se veut anonyme.
Oui, tout à fait.
Et en anglais, it's God's way of being anonymous.
Bien sûr, c'est tout à fait ce que je ressens profondément, quoi. Tout à fait. Et il a drôlement raison de rester anonyme et de nous laisser là dans l'expectative. Vous savez, ce film explique que la vie est un tour de magie. D'ailleurs, vous avez vu l'importance du magicien dans le film, puisque...
Oui, c'est un leitmotiv.
Voilà, et c'est un leitmotiv, mais la vie est un tour de magie. Je veux dire que si Dieu existe et il existe, c'est avant tout un magicien. Et je veux surtout pas qu'il nous explique son truc.
Oui, il faut garder le mystère.
Bah, évidemment, évidemment. À chaque fois que des magiciens m'ont expliqué leur tour de cartes, j'ai été déçu. Oui.
Absolument.
Donc, ce qui fait qu'on croit en Dieu, c'est qu'on croit à la magie. Mais on sait très bien qu'il y a des trucs. Et donc, si Dieu existe, il a forcément un truc aussi. Mais ouais, ce truc-là, j'ai pas envie de le connaître.
Exactement. Et garder le mystère nous permet justement de nourrir cette curiosité. Est-ce que Miloche appelait le regard de la première fois sur les choses de tous les jours?
Absolument. Vous savez, dans les histoires d'amour aussi, on a trop tendance à vouloir connaître les trucs de l'autre Et dès que l'autre nous explique ses trucs, on cesse de l'aimer. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil.
Oui.
C'est magique, une histoire d'amour. C'est un truc magique. Mais il ne faut pas demander à l'autre quel est ton truc. Comment tu fais? Vous voyez, dès qu'on essaie de savoir comment l'autre fait, hop, bah, après.
On décortique et puis la magie, oui. Ça devient une mécanique.
Et voilà, quand on aime quelque chose, il ne faut surtout pas demander d'explication et connaître le truc. Et c'est vrai que c'est tentant, quand un tour de magie est merveilleux, on a envie de savoir comment il a été fait, vous voyez. Mais une histoire d'amour, c'est un tour de magie, hein. C'est un tour de magie.
C'est magnifique comme description. D'ailleurs, vos films en sont l'illustration.
Oui, oui.
Mais vous savez, en revenant à cette vérité à laquelle personne ne croit, parce que tous les personnages disent quelque chose. Par exemple, lorsque le premier mari de Judith Traditzer lui demande combien de cadavres dans le prochain, et elle dit, mais peut-être vous. Et lorsque le personnage, le nègre de Judith Traditzer se déclare comme tel, personne ne le croit. Quand il dit, tout romancier n'est qu'un prédateur, alors qu'il y a déjà de plusieurs doubles ententes avec l'actualité qui se superpose. Et puis, quand il parle d'une victime comme une autre, il parle de l'humanité, finalement.
Bien sûr. Non, mais vous savez, je suis très content de tout ce que vous me dites. Vous avez bien vu ce qu'il y avait à voir et vous avez bien ressenti ce que j'ai essayé de faire passer. Parce que c'est un film à plusieurs lectures. Et j'aime bien quand je tombe sur des gens qui sont allés au-delà de l'histoire d'amour. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que l'histoire d'amour, c'est ce qu'il y a de plus facile dans ce film. Mais il y a tous les mécanismes du mensonge, vous voyez. Donc, mais le mensonge est devenu aujourd'hui un élément très important dans le monde dans lequel nous vivons, et je dirais même qu'il rend plus de service que la vérité. Il a plus d'imagination, il est plus romantique, plus poétique, et puis il permet aux gens défavorisés d'exister. Je veux dire, les gens qui n'ont rien, s'ils n'avaient pas le mensonge à leur disposition, comment ils feraient? Vous voyez ce que je veux dire? La vérité, c'est un luxe de riche. Il faut être en bonne santé, beau, intelligent pour
n'avoir rien à cacher.
Pour n'avoir rien à cacher et se contenter de la vérité. Je veux dire, le mensonge permet aux gens les plus défavorisés. Et moi, le mensonge m'a rendu plus de service que la vérité. Il m'a permis de grandir, il m'a permis d'être un metteur en scène, il m'a permis de faire croire aux autres que j'avais du talent.
Je crois que vous l'avez prouvé depuis, Claude Lelouch.
Peut-être que le talent m'a rattrapé après, mais au départ, j'en étais pas sûr. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai commencé par faire croire aux gens que j'en avais. Donc, le mensonge m'a rendu je cracherai jamais sur le mensonge. Le mensonge, c'est comme un prêt à la banque. Il faut le rembourser. Bon, c'est tout, avec les intérêts. Mais, comment on ferait s'il n'y avait pas la possibilité d'emprunter? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça que ce film, et c'est presque un film qui fait l'apologie du mensonge et de ses vertus.
Mais ça me rappelle une réplique du roi Ludwig, le roi fou.
Oui.
Et à un moment donné, parce qu'il crée tous ces châteaux féeriques, toute cette fantaisie, tous ces fantasmes, tous ces paysages de rêve, etc. Et à un moment donné, son docteur, qui n'était pas, peut-être qu'il était psychiatre, mais il le suivait, il lui dit, mais enfin, pourquoi tout ça? Surtout que l'État était exsangue. Et il dit, mais les paysans ont besoin de ce rêve que nous incarnons. Ça me rappelle ce que vous me dites. Là, maintenant, nous sommes tous partie prenante du jeu de la vie qui est apparence et réalité, perception et vérité, et puis tout ce qui se greffe dessus. Par exemple, les identités changent, les destins sont croisés. Moi, l'idée de destin croisé et le point où ils se rencontrent, d'intersection, c'est quelque chose de magique, comme vous le dites.
Oui, mais c'est
mais c'est guidé de quelque part.
Une histoire d'amour, c'est la réussite d'une synchronicité. C'est un véritable miracle, quoi. C'est un véritable miracle d'arriver à synchroniser, à un moment donné, deux personnes. Bon, alors, ce qui est dur, c'est de maintenir cette synchronicité. La synchronicité, c'est déjà un miracle, mais le plus dur, après, c'est qu'il n'y en ait pas un des deux qui rattrape l'autre ou qui le devance.
Oui, mais, ou alors qu'il veuille savoir plus.
Voilà, c'est ça. Non, mais encore une fois, ce spectacle de la vie, avec le noir, le blanc, le bien, le mal, je m'en suis pas encore remis, vous voyez ce que je veux dire,
Revenons au thème de roman de gare, destin croisé au cross tracks, et on parle naturellement des identités changeantes, des amours, des trahisons, des responsabilités. Vous lancez un coup de peinture sur le parisianisme autarcique du monde de la télévision et des célébrités. Ça, oui, c'est important de le faire parce que franchement, ça touche presque au ridicule.
Oui, oui, surtout en ce moment. Mais là, maintenant, il y a une surenchère et on n'est pas au bout de nos surprises. Ce que je veux dire, que là, maintenant, il y a un exhibitionnisme indécent. Oui, mais vous savez, tout a un sens, tout est utile. Il n'y a rien qui soit innocent. Moi, je suis arrivé à un degré de tolérance incroyable puisque j'ai tellement compris que c'était dans le fumier que poussaient les plus belles roses, vous voyez.
Quelle belle expression, c'est vrai.
Qu'il faut accepter le pire, parce que c'est là que vont naître l'essentiel. Donc, j'ai cessé de m'insurger contre certaines choses, puisque quelque part, ça prépare l'essentiel, vous voyez. Donc, maintenant, je suis vraiment de plus en plus ancré vivre le présent à fond. Vous savez, la vie, c'est un petit peu comme... Imaginez que je vous emmène au cinéma, puis je vous dis on va rater les 10 premières minutes du film, et puis on va partir 10 minutes avant la fin du film. Ben, vous venez plus avec moi au cinéma, vous dites qu'est-ce que c'est que ce mec ? Eh bien, la vie, c'est comme ça. La vie, c'est comme ça. On est arrivé dans un film qui avait commencé il y a bien avant nous, et on sera obligé de partir avant la fin. Donc, il faut se contenter des séquences qu'on nous montre. Vous voyez ce que je veux dire ? Il faut se contenter des séquences qu'on va voir. On connaîtra jamais le début du film, on connaîtra jamais la fin du film. Jamais. Et tous ceux qui vont essayer de passer leur vie à savoir d'où on vient et où on va, on est très malheureux. Moi, j'ai essayé pendant très longtemps d'essayer de savoir, comme tout le monde, d'où on venait, où on allait. J'ai renoncé. J'aurais jamais la réponse et ça peut me pourrir la vie. Et donc, j'ai décidé de me concentrer maintenant sur le présent et sur les séquences qu'on me propose. Je veux dire, c'est pour ça que j'ai fait ce livre ces années-là. Donc, je vais essayer de me concentrer sur ces années que j'ai la chance de vivre. Voilà.
Ce qui est la sagesse, d'ailleurs. On revient à la sagesse.
Voilà,
pur, tout simplement.
Il faut vivre le présent à fond, et puis ne pas essayer de savoir d'où on vient, où on va, on ne le saura jamais, et tout est organisé pour qu'on ne le sache jamais. Et les gens les plus malheureux d'entre nous sont ceux qui veulent essayer de savoir d'où on vient, où on va, mais en toute chose. Hein.
Absolument.
En toute chose, c'est pas simplement au niveau de l'univers, hein, c'est au niveau de la vie de chacun d'entre nous. À chaque fois qu'on rencontre quelqu'un, on veut savoir d'où il vient et où il va. On s'en fout d'où il vient, même s'il vient de l'enfer, de la prison, du trottoir, on s'en fout. Si au moment où on le rencontre, il est formidable, il faut en profiter, vous voyez. C'est ça le grand problème de l'humanité, c'est qu'on veut trop savoir d'où on vient, où on va, et d'où viennent les gens qu'on rencontre et où ils vont aller. On s'en fout. Il faut les utiliser au moment où ils nous accompagnent. Et puis voilà, puis sans a priori. Mais ça, c'est très très dur à admettre, vous voyez,
parce qu'il y a des organisations et on veut penser et voilà. Durer, et on pense alors, à des concepts qui ne sont pas du tout réalistes.
Voilà, il faut absolument se dire, voilà, si j'ai droit à 10 minutes de bonheur, allons-y, profitons-en, parce que 10 minutes de bonheur, ça vous s'entend d'une vie médiocre, oui, largement.
Et c'est le carpe diem des Romains et des Grecs.
Voilà.
Pour les thèmes, on est conscient qu'après ce voyage initiatique, parce que c'est un peu le road movie de la découverte de soi-même, et de ce que l'on veut vraiment. On a l'impression aussi que les personnages sont arrivés à une sorte de sérénité. Enfin, deux des personnages principaux vont s'aimer.
Oui, en tous les cas, ces deux personnages sont pour moi tout ce que j'aime, dans la mesure où cette femme, au départ, elle est insupportable, agaçante, on a envie de la laisser sur une route, vous voyez ce que je veux dire ?
Ce qui arrive d'ailleurs.
Oui, ce qui se passe, donc. Ouais. Et puis finalement, c'est une femme d'une curiosité, d'une ingéniosité. Enfin, je veux dire, elle se révèle être une femme curieuse, vous voyez, curieuse et amoureuse de la vie. Et elle fait pas de concessions. Voilà. Mais au départ, j'ai plus essayé de montrer un monstre, un petit monstre de femme, en se disant, putain, pourvu qu'on tombe pas là-dessus, vous voyez ce que je veux dire. Alors que c'est la femme idéale, quoi. C'est la vraie Midinette. C'était un portrait de Midinette. Bon, mais c'est vrai que, pour moi, il y a deux sortes de femmes. Il y a les midinettes et les femmes fatales. Mais les femmes fatales sont des midinettes déçues, vous voyez ce que je veux dire.
Oh, ça, c'est magnifique comme description. C'est des Matahari qui ont échoué.
Oui, c'est ça. Mais toutes les femmes sont des midinettes. Nous, on est tous des midinettes, les hommes aussi, d'ailleurs. Mais c'est vrai que dès qu'on est déçu, on se transforme en femme fatale. Dès qu'on est déçu, on devient méfiant.
Méchant.
Méchant.
Cruel.
Cruel et tout, voilà. Et donc, on va dire que Fanny Ardant est une femme fatale. C'est une ancienne midinette déçue, vous voyez. Et puis il y a Audrey qui est une midinette à 100%, puisque...
Avec sa colère, qui est une forme de catharsis aussi.
Voilà, c'est ça. Mais donc ça, et puis d'un côté, il y a Dominique Pinon qui est quelqu'un qui rentre dans la sagesse, qui commence à avoir compris des choses. Mais il les comprend grâce à elle, je veux dire qu'il décide...
Oui, elle est le vecteur par lequel voilà. Il peut lui aussi passer de l'autre côté.
voilà, s'il ne rencontre pas cette femme, il reste nègre toute sa vie. C'est elle qui, à un moment
donné, libère.
Le libère et lui donne envie de devenir indépendant. Quoi. Donc les deux personnages avaient besoin de se rencontrer, ils avaient besoin l'un de l'autre. Il y en a un qui avait besoin que quelqu'un...
L'accouche, littéralement. C'est un accouchement.
Absolument, ils se sont accouchés mutuellement.
Ils se sont accouchés mutuellement. Mais d'ailleurs, c'est pour ça qu'en revoyant le film, une victime comme une autre, dans la bouche de cet homme, il parle de lui comme il parle du reste de l'humanité autour de lui.
J'ai fait le tour du monde plusieurs fois et j'ai très envie un jour d'aller là-bas.
Eh ben, je crois qu'on vous accueillera à bras ouverts. Et alors là, si vous voulez voir la réalité et voir des gens qui mettent les choses et qui profitent du moment, il y a ça aussi. Claude Lelouch, vous parlez de culpabilité dans ce film, Roman de Gare. Des culpabilités dans le sens que ceux qui apparaissent coupables ne le sont pas autant que d'autres. Et que c'est une question de degré. On est tous dedans de toute façon, à un certain moment.
Oui, on est tous le coupable de quelqu'un et l'innocent de quelqu'un, est-ce que je dirais. Ça devient des valeurs abstraites, est-ce que je veux dire. Surtout vu par un metteur en scène. Moi, dans mes films, il y a des gentils et des méchants, vous voyez. Bon, mais quand j'ai dit couper, je les aime autant les uns que les autres, est-ce que je veux dire.
C'est un peu comme Manu, il disait. Oui. Mais personne n'est coupable, c'est une question de distribution.
Évidemment, voilà, c'est ça. Ben, c'est exactement ça. Donc... il faut faire comme ça, donc il faut hélas des criminels, il faut des pédophiles, il faut des mecs qui courent le 100 mètres en moins de 10 secondes, il faut des sales cons, il faut des braves types, sinon le spectacle serait pas à la hauteur de ce qu'il est, vous voyez.
Donc, c'est la comédie humaine.
Voilà, donc si on aime le spectacle de la vie, il faut que les méchants soient très méchants. Et sinon ça n'a pas de sens, donc dans la mesure où la mort... c'est la fin du spectacle, et que là, on va tous aller près se retrouver pour boire un coup. C'est quand même formidable de vivre tout ce qu'on est en train de vivre. C'est ça que j'essaie de dire, mais c'est pas facile à dire.
On vous le dit très bien, mais ce qui est étonnant, c'est justement ce dosage entre ce qui est vraiment dramatique, parce que c'est la condition humaine, donc ce titre de roman « Dieu est un autre », et qui devient un tournant. Et puis alors, nous avons Audrey, qui à un certain moment, elle, qui a toujours été victime, qui ne s'aime pas, etc. À un certain moment, elle a pris conscience de quelque chose, de ses valeurs, et sur lesquelles elle se base, et elle se forge une détermination. Et elle dit à cette déesse, ou cette femme qu'elle a tellement admirée, « Je ne sais pas si Dieu est un autre, mais maintenant je sais qu'il y a le diable. »
Bien sûr.
« Il est mort comment, votre nègre ?» C'est une bombe. Mais vous avez aussi l'humour, et j'ai vraiment adoré quand un des personnages qui joue différents rôles, au début on n'est pas très sûr quelle sorte de personnage il est, parce qu'il y a toutes ces nouvelles qui viennent de la radio et qui sont plutôt menaçantes, mais alors il décide d'être un généraliste, ils vont faire un jeu de rôle, et il dit « et dire des généralités », et puis il se choisit un non-juif, sa compagne était berluée et... elle lui demande pourquoi, il dit « j'improvisais ». Et ensuite, il est dans cet engrenage de devoir expliquer la judaïté. Mais en même temps, sa fille, il y a cette scène extraordinaire. C'est du surréalisme qui pourrait s'apparenter à certains films sud-américains lorsque l'ancien boyfriend revient et elle lui tire dessus et elle le chasse. L'expression ébahie de la famille qui ne sait plus exactement à quoi s'en tenir, et la fille qui demande tout à fait réaliste, mais tu devais en épouser combien ? On hésite entre l'éclat de rire, et puis le moment où on réfléchit, et puis l'autre moment où on est choqué, où on a peur, c'est constant.
Non, mais c'est parce que la vie est un quiproquo, hein. La vie est un quiproquo, la vie est un malentendu. C'est pour ça que le théâtre de boulevard a tant de succès. Et c'est pas autre chose. C'est ce que j'ai essayé de faire dans Roman de Gare. J'ai joué sur les quiproquos, sur les malentendus, sur...
des doubles ententes.
Voilà.
Et des personnages qui disent des choses qui sont voilà. À contre-courant ou à contre-sens de la conversation précédente. Mais ils s'expriment et il y a des thèmes qui les unissent.
Non, puisqu'il faut, c'est qu'à la fin, il y ait quand même une explication finale, quand même, pour que le spectateur puisse s'y retrouver un petit peu, quand même. Mais c'est vrai que j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce film, et j'ai hâte de faire les deux prochains, puisque je vais essayer maintenant d'aller encore un peu plus loin dans ce délire, et dans ces hasards et ces coïncidences qui font que, je vous dis, je me lasse pas de ce spectacle. Voilà.
Mais nous, on ne se lasse pas de le voir non plus, puis il fait écho aussi à des choses que nous ressentons et que nous recherchons.
si je viens en Australie un jour, essayer de me laisser vos coordonnées.
Absolument. Claude Lelouch, merci de cette interview, mère, et encore une fois, bon anniversaire.
Et je suis ravi d'avoir parlé avec quelqu'un qui est si bien rentré dans le film, parce que il y a beaucoup de gens qui ont aimé ce film, mais il n'y en a pas beaucoup qui ont vu toutes ces petites choses. Voilà, ça me fait très plaisir.
On apporte ses bagages avec soi lorsqu'on interprète les choses. C'est un jeu, ce film aussi, parce qu'il interpelle le spectateur. Il y a des rebondissements qui font qu'on est obligé de remettre tout à zéro, en se disant, ben non, c'était pas ça. On croyait avoir compris, mais on n'a pas compris. Les dialogues sont tellement serrés. Je crois qu'il faut le voir plusieurs fois.
Non, il faut le voir plusieurs fois. Il a été fait pour être vu plusieurs fois.
Eh ben, c'est réussi. Claude Lelouch, merci. Et bonne journée, bon anniversaire de nouveau. Au revoir.
Au revoir.
SBS en français. Partagez nos rubriques sur Facebook.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/SBS French.
Just like backyard barbecues or a day at the pool, the Three Rivers Festival has always been a part of our summer fun. And the festival returns July 12th to the 20th. It kicks off with the annual Three Rivers Festival Parade. Browse art in the park with local artisans. Bring the family to Children's Fest. Stroll through Junk Food Alley. And don't forget about the festival concerts at the Hoosier Lottery stage with live music from nationally renowned acts. You can buy your concert tickets or check out a schedule of events at threeriversfestival.org. Don't miss the best summer experience in Fort Wayne, the Three Rivers Festival.